Commençons par la prière. Père éternel, j'ai l'impression que nous sommes déjà enseignés. Tu nous as déjà parlé à travers ces échanges que nous avons eus ce matin, à travers ces témoignages, à travers ces débats, à travers ces chants et à travers cette prière et ces prières. Nous te remercions déjà par avance pour cette nourriture qui nourrit notre être intérieur, qui nous donne cette paix intérieure et qui nous fait grandir dans cette communion fraternelle. Je remets entre tes mains ce que nous avons échangé à présent autour de ta parole. Et je te prie qu'elle soit une nourriture pour l'orateur, pour les frères et sœurs qui sont présents, présentes. Je te prie de nous guider, de nous éclairer et de mettre de côté tout ce qui peut ne pas venir de toi, mais de ne garder que ce qui plaît à ton cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Alors effectivement, vu les sujets que nous avons échangés ce matin, ça tournait autour de la communion fraternelle, autour de l'espérance, autour que Dieu répand. Dieu répand.
Tu appuies quand tu veux.
C'est fait. Donc l'enregistrement est lancé, Jean-Louis. Et à travers ce que nous avons échangé, les témoignages, j'ai l'impression que Dieu confirme encore mes questionnements quand je prépare le message, que je vous ai dit que j'y pense vraiment au message. Je dirais bien qu'il est présent toute la semaine, mais d'une manière concrète. C'est vendredi soir, où je me dis, est-ce que par rapport à ce que j'ai vécu la semaine, est-ce que, etc., les questions qui se posent. Et ce matin, j'avais à cœur de partager avec vous, pas un témoignage, mais une interview qui date de 2006. Et je pense que c'est l'intervieweur, c'est un Américain, et qui allait visiter la Chine, et qui a posé des questions, qui a visité les églises de maison, et qui a posé des questions, interviewé un responsable d'église de maison. Et c'est ça que je vais partager avec vous ce matin. Mais quand j'ai lu ce témoignage qui m'a parlé, alors là, je le prends tel quel. J'aurais pu utiliser, parce qu'il y avait cette tentation, et je l'avoue devant vous. Il y avait cette tentation de supprimer quelqu'un parce que ça peut heurter, ça peut remettre en question. Je l'avais, cette tentation. Si je ne l'avoue pas, je mentirais devant Dieu. Mais plus le temps passe, je dis, je la livre telle qu'elle. Et Dieu seul parle au cœur. Dieu seul éclaire. Il nous parle à chacun de nous. Mais en même temps, je me dis, Seigneur, mais c'est quoi le lien avec tout ce qui se passe, là, ce témoignage? Mais figurez-vous, la déclaration, il y a une déclaration qui je trouvais, ça m'a heurté, alors que rien d'étonnant. Je trouve que c'était quelque chose de... On est passé à un stade supérieur encore de cette Église qui intègre le monde. Je parle de la déclaration du pape. Oui. Et cette semaine, nous apprenons, comme par hasard, et d'ailleurs, les médias ont fait l'écho, donc ils ont soutenu. Mais bien sûr, ça correspond au monde. C'est quand il a dit, il faut reconnaître l'union entre deux hommes. Et en mettant ça sur le compte de quoi? Sur l'amour de l'autre. Comme si dénoncer l'homosexualité, c'est qu'on est en train de rejeter la personne. Nous aimons le pécheur, mais nous rejetons le péché. Nous sommes dans un monde où on doit faire attention maintenant à ne plus mettre de mots, de ne pas froisser le monde, parce que nous voulons que l'Église soit acceptée par le monde. En voulant plaire au monde, mais on met de côté notre Dieu. Voilà ce qui nous attend, voilà ce que tu as dit tout à l'heure. Peut-être le jour viendra, et je le répète, le jour viendra, où le fait de dénoncer ce que la Bible dénonce, on sera des personnes peut-être intégristes, peut-être, contre le monde. On nous jugera. Nous croyons en la Bible. Et la Bible dit clairement, l'homosexualité est un péché dénoncé. Prenons l'exemple, on peut faire, se rappeler de l'exemple de Sodome et de Gomorre. Comment on peut sortir des exemples de le Nouveau Testament? Nous aimons le pécheur, mais nous dénonçons le péché. Et l'annonce du pape m'a heurté dans le sens où il représente une certaine morale mondiale. Mais c'est une étape franchie, encore une fois, de cette conformité entre l'Église et le monde. Et cette déclaration m'a fait tout de suite voyager dans l'Ancien Testament. Et on a parlé d'Abraham. Vous voyez, on a parlé d'Abraham. Et bien dans l'histoire d'Abraham, il avait un neveu qui s'appelait Lot, qui croit, les deux sont croyants. Les deux sont croyants. Mais à un certain moment, leurs chemins se sont séparés. Mais même se séparer, Abraham continue à prier pour son neveu. Rappelons-nous l'histoire, je la fais courte, l'histoire. Ça nous prépare pour rentrer, dans cet échange, dans cette interview avec ce responsable d'église de maison. Les deux étaient riches. Les deux croyaient en Dieu. D'accord. Et à un certain moment, leurs bergers se battaient entre eux. Donc ils ont dit, il faut qu'on trouve une solution. Vous voyez ? L'exemple même de l'église. Il faut qu'on trouve une solution. Les solutions, c'est la séparation. Vous voyez ? La séparation. Alors Abraham dit à Lot, je te laisse choisir. Le fait de dire je te laisse choisir, lisez, il faut qu'on comprenne par là, moi j'ai confiance en Dieu. Oui, je te laisse choisir. Et il y avait le choix entre la plaine et la montagne, la moyenne montagne. Entre la satiété, entre le plaisir, entre la facilité, la plaine et la montagne et ses difficultés. Lot a choisi la facilité, la simplicité, le bien-être, il y a tout. Il a choisi la plaine. Cette plaine, il y avait Sodome et Gomorre. Mais il s'est accommodé de ça. Alors qu'Abraham prend le chemin de la montagne, la haute montagne, je vous rappelle que la montagne, dans la signification de la Bible, c'est le lieu où Dieu rencontre son peuple. Dieu après a choisi Dieu. Dès le départ, il n'a pas déjà choisi. Mais il dit, Dieu, je choisis ce que tu me donneras. Il est parti à la montagne. Lot est parti, Sodome et Gomorre. Il s'est compromis avec le monde. Alors c'est un croyant, fervent. Il a une famille, il a des filles qui étaient mariées, il avait des gendres, il avait deux filles qui n'étaient pas mariées encore. Il s'est compromis avec le monde, il a accepté de vivre dans ce monde, en disant c'est pas grave, c'est pas grave, je vivrai dans ce monde-là. Moi, je suis convaincu. Et dans cette histoire, on voit quand les deux anges sont venus dans cette ville pour punir la ville, Dieu les a envoyés pour punir, Lot les a accueillis, il les a obligés de rentrer chez lui. Il lui dit non, on veut rester dehors, on veut punir tel que Dieu nous envoie pour punir. Nous, il dit non, Dieu vous a envoyé pour punir Sodome et Gomorre, moi je vais vous accaparer pour moi. Je m'accapare mon Dieu dans ma maison, et je ne veux même pas qu'il agisse dans la ville. Ils sont rentrés quand même par amour, rentrés chez lui. Et quand ils l'ont pressé de dire, maintenant tu vas sortir de la ville parce que Dieu va juger la ville, va juger Sodome et Gomorre, Ces gendres n'ont pas même pas cru en Lot. La Bible nous dit qu'ils croyaient qu'il plaisantait. Cet homme de Dieu n'avait aucune crédibilité dans sa propre famille parce qu'il était dans le compromis, dans le monde. Il avait deux filles vierges. Son compromis va très loin jusqu'au point d'offrir ses filles à Sodome et Gomorre. Vous voyez, le compromis va jusqu'au point. C'est-à-dire que l'Église, elle peut se compromettre, c'est l'enseignement pour nous. C'est, je dis l'Ancien Testament, c'est spirituel, c'est pour nous. L'Église peut se compromettre avec le monde jusqu'à s'offrir au monde, c'est-à-dire faire la même chose que ce que fait le monde. C'est ce qu'il a fait, Lot. Il leur a dit, je garde les deux anges, mais je vous offre mes filles. Vous vous rendez compte, le compromis peut aller à tel point. C'est ça quand l'Église, quand Dieu dit, il veut une Église sainte. En quelque sorte, il ne veut pas d'église adultère. Mais Lot, ça représente cette église que Dieu n'en veut pas. Et même quand ils sont sortis, les anges leur ont appelé pour partir, pour se sauver, sa propre femme, attirée par le monde, alors que les anges lui disent, ne regardez pas en arrière, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, L'apôtre Paul, je cours en avant, je ne regarde pas en arrière. La femme de Lot a regardé en arrière et est devenue une statue en sel. Le compromis, il a engendré tellement de, je dirais, de blasphèmes, d'autres compromis, au point que les filles de Lot ont fait boire de l'alcool à leur père pour coucher avec lui. On ne se rend pas compte du compromis qu'il peut y avoir entre l'Église et le monde. Et l'exemple, nous l'avons avec ce qui se passe avec les responsables catholiques. Et pas spécialement les catholiques. L'Église même proprement, quand on laisse le monde rentrer dans l'Église, on ne se rend même pas compte. En fait, c'est tellement banal pour nous. On ne se rend même pas compte. C'est tellement banal ou c'est pas grand-chose. Dieu est saint. Et quand il révèle en nous sa sainteté, si on ne tremble pas, il y a un problème. L'Église, en se compromettant, et l'histoire de Lot, il peut y avoir d'autres interprétations. Je ne fais que résumer, mais si vous lisez cette histoire-là, et lisez le chapitre Genèse, chapitre 19, et vous verrez que c'est une... C'est catastrophique. Ça parle de l'Église comme quand elle se compromet avec le monde. Et malgré dans cette situation-là, malgré cette situation-là, Dieu l'a sauvé. Dieu a sauvé Lot. Pourquoi, à votre avis? Eh bien, parce que la Bible nous dit, Abraham intercédait. Même dans cette situation, il y avait un Abraham qui intercédait pour son neveu, malgré tout ça. Et Dieu est intervenu, mais sans justice. Il est intervenu sans amener, il a amené de la justice, plutôt. Il a intervenu, d'accord, mais il a purifié son Église. Et c'est ça le message Dieu est en train de nous donner pour dire que Dieu est en train de purifier son Église pour la préparer, préparer son épouse pour la rencontre finale. Croyez-vous que Dieu va faire rencontrer, va préparer une Église compromise comme Sodome et Gomorre? C'est pas possible. Mais ça ne vient même pas à l'idée. Donc Dieu juge. Il purifie et il prépare son Église. J'ai trouvé cette histoire de Lot tellement parlante que tu te dis des fois, mais on est où? Nous sommes où, nous? J'en suis où, moi? Abdelak Abdel, moi, j'en suis où dans cette histoire-là? Le compromis. Je me comprends avec le monde ou pas? J'accepte ce qui se passe dans le monde? En fonctionne avec légèreté maintenant. Ce n'est pas grave, on dit. Ce n'est pas grave, mais c'est quoi? C'est rien du tout. Mais c'est comme ça que le ver dans le fruit il demeure petit à petit. Pour arriver à cette déclaration que j'ai entendue cette semaine, et on met sur le compte de l'amour de l'autre. C'est terrible. Et c'est dans ce contexte-là, j'ai envie de maintenant partager avec vous cette interview, que je vais vous lire telle qu'elle. Alors, il date de 2006. Il date de 2006. Mais avant de vous lire cette interview, je vais vous lire un passage dans la Bible. Et dans Luc 17, versets 29 à 32. Luc 17, versets 29 à 32. Je dirais même 26, je vais lire à partir du 26. Luc 17, verset 26, et j'irai jusqu'à 32. Voilà ce que je... Et le Seigneur l'a soulevé déjà. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot, l'histoire, je vais vous raconter. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Je le répète. Il en sera de même où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot qui a regardé en arrière. Celui qui cherchera à sauver sa vie, voilà la réponse. Celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra, la retrouvera. Voilà ce qui nous attend et ce à quoi nous sommes appelés. Celui qui perdra sa vie, la trouvera. Et celui qui cherche à sauver la vie, la perdra. Il n'est rien d'autre que cette croix que nous portons. Cette métamorphose que nous avons accepté le Seigneur qui nous transforme. Alors je vous livre cette interview qui date, j'ai dit, de 2006. La question de l'intervieweur. Pourrions-nous maintenant... Alors il faut savoir que ce qui est sorti en fait d'un échange qui est assez long. Mais là, ce que je vous donne, c'est dans la continuité, il n'est pas coupé. Enfin, il n'est pas coupé. Il est sorti quand même du milieu, mais dans l'interview totale. Je ne peux pas tout vous lire. Hein. Alors, la première question. Pourrions-nous maintenant aborder une autre question importante? Comment les chrétiens chinois évaluent la chrétienté de l'Occident? La question qu'on a posée à ce responsable chinois. N'oublions pas qu'on prie pour l'Église persécutée, hein. Nous ici, on prie souvent pour l'Église persécutée. Mais maintenant, on pose la question, qu'est-ce qu'ils font eux pour nous? Est-ce qu'ils prient pour nous? Voilà la réponse du responsable de la maison de l'Église de Maison. Nous pensons que l'Église de l'Ouest est en train de s'amuser. Nous sommes troublés par la frivolité de certains de leurs réunions. Ils ne sont pas sympas, là. On prie pour eux, mais ils disent ça de nous. Chez nous, ceux qui participent à nos rassemblements sont brisés et contrits, et ils versent beaucoup de larmes pendant que les chrétiens occidentaux racontent des blagues. Cela a pour effet des résultats très différents. Nous pensons que l'Église de l'Ouest est ligotée par les traditions et les programmes et qu'elle ne peut pas suivre les multiples directions du Saint-Esprit. Nous devons nous assurer d'avoir cette ligne directe avec le Saint-Esprit et nous mettre sérieusement à l'écoute de sa voix. Les chrétiens de l'Ouest ont été capables d'éliminer Christ et sa présence directe en leur sein. J'ai l'impression que toute la chrétienté de l'Ouest va mettre un certain temps avant de se rendre compte que Jésus n'est plus avec elle depuis longtemps. Il est parti ailleurs. Il n'est plus du tout avec elle. Question de l'intervieweur. Que croit l'Église de Chine au sujet du Saint-Esprit? Il est évident que vous êtes un peuple puissant. Comment voyez-vous cela par rapport à votre théologie sur le Saint-Esprit? Réponse du responsable de l'Église de Maison. En Chine, nous croyons que c'est un commandement de Dieu que chaque croyant soit baptisé dans l'Esprit, dans le Saint-Esprit. Nous croyons également que nous devons être remplis de l'Esprit de façon permanente alors que nous poursuivons notre vie avec le Seigneur Jésus. C'est pour cette raison que nous partageons des choses extraordinaires dans nos réunions. Question. Que pensent les Chinois au sujet de la sanctification? C'est un domaine où il y a beaucoup de confusion à l'Ouest. L'Église est plutôt mondaine. À l'Ouest. Réponse. Nous sommes des chrétiens conservateurs. Nous alignons nos vies sur la parole de Dieu. Plusieurs parmi nous n'ont pas de Bible. Ils ne sont pas de ceux qui ont beaucoup étudié pour voir ce que Dieu dit sur la façon de vivre une vraie vie chrétienne. Nos épouses également sont humbles dans leur vie spirituelle et modestes dans leur façon de s'habiller. Ce domaine de la sanctification est un vrai problème pour nous lorsque nous essayons de nous en référer aux chrétiens de l'Ouest. Question. Certains témoignages de guérison sont époustouflants. Les bras m'en tombent lorsque je les entends. L'intervieweur américain est étonné. Pouvez-vous développer un peu ce sujet? Quelle est votre théologie de la guérison? Tout d'abord, c'est la réponse maintenant. Tout d'abord, laissez-moi vous répondre que la théologie n'est qu'une petite partie de la question. Nous avons une théologie de la guérison qui est simple. Nous croyons que Dieu guérit. L'intervieweur, en fait, cherchait des explications théologiques. Alors, il lui répond, ne croyant que Dieu guérit. C'est tout simplement une des multiples facettes de son caractère saint. À l'ouest, vous croyez que Dieu peut guérir. C'est pas la même chose, mais Dieu guérit, Dieu peut guérir. En Chine, nous croyons qu'il le fait tout le temps. Cela dépend de votre foi et de la nôtre. Vous recevez ce que vous croyez. Les gens ici sont pauvres. Ils n'ont pas les moyens de consulter un médecin. C'est pour cela qu'ils croient en Dieu pour leur guérison, bien plus que les chrétiens de l'Ouest ne le font. Des guérisons se produisent tout le temps. Mais il y a aussi des personnes qui continuent à lutter avec la maladie. Ah oui, ça fait partie. Ça remet en question ceux qui disent que tout le monde doit être guéri. Non, il y en a qui continuent à être malades. Dieu... La pauvreté et la persécution ont aussi leurs dures conséquences. Parfois Dieu guérit, et parfois non. Dieu est souverain. Question. Pouvez-vous expliquer aussi les autres miracles dont on entend parler en Chine? On est en 2006. Nous ne pouvons pas témoigner d'autant de choses surnaturelles à l'Ouest. Comment la Chine voit-elle tout cela? Réponse. Nous croyons en un Dieu de miracles. Cela n'a rien à voir avec une distraction, comme c'est le cas dans l'Ouest. Quand des miracles se produisent au cours d'une réunion, le prédicateur continue de prêcher l'Évangile. Nous nous attendons tout simplement à ce que Dieu confirme sa parole par des miracles. 80% d'entre nous avons expérimenté un miracle d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi nous nous y attendons tout le temps. Nous ne glorifions jamais le miracle. Nous glorifions Dieu. Le don des miracles se trouve dans la Bible. Et Dieu agit par ce don pour rendre gloire à son nom. Question. Avez-vous déjà entendu dire de quelqu'un, que quelqu'un soit ressuscité? Réponse. Oh oui. Cela se produit souvent. Lorsque quelqu'un est tué ou finit par mourir à cause de la persécution, les responsables viennent là où se trouve le corps et ils prient pour savoir si Dieu veut que cette personne vive à nouveau. Question. J'ai souvent dit dans mes sermons, donc certainement l'intervieweur est un pasteur ou aux États-Unis, certainement, c'est lui qui pose cette question, il dit, j'ai souvent dit dans mes sermons, quand la persécution vient, la vraie unité vient avec elle parce qu'il n'y a plus de compromis avec le monde. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de l'unité? Ici à l'Ouest, il y a toute cette confusion œcuménique. Réponse. Encore une fois, notre théologie est très simple. Notre unité est basée sur les racines de la foi et sur les véritables attributs du disciple. Nous disons, les disciples témoignent et ils sont persécutés à cause de leur témoignage. Et c'est bien là que se fait notre unité. Il y a des différences parmi nous, mais nous ne laissons pas ces différences nous diviser dans notre guerre pour sauver des âmes. Nous croyons qu'il y a davantage de choses qui nous unissent que de choses qui nous séparent. Question. Pouvez-vous faire un commentaire au sujet des églises de maison? Que signifie cette expression? Réponse. Cela signifie différentes choses. Premièrement, ce qualificatif est employé parce que nous nous réunissons dans des maisons. Il y a plusieurs raisons à cela, et je vais en parler un peu plus loin. La seconde raison s'apparente au fait que nous faisons une distinction entre nous et les églises enregistrées qui ont des bâtiments où se rassemblent des chrétiens. La dernière raison est la plus importante. Nous nous appelons église de maison par conviction. Nous nous rassemblons dans des maisons parce que nous croyons que c'est biblique. C'est aussi vrai que nous devons faire ainsi à cause de la persécution. Mais c'est surtout parce que c'est purement évangélique. Même si le gouvernement nous permettait de nous réunir librement, nous continuerons à nous réunir dans des maisons. C'est là un des grands secrets de notre incroyable croissance. Plus il y a de lieux de réunion, plus nous pouvons amener des perdus à Christ. De plus, lorsque nous nous rencontrons dans des maisons, cela ne nous coûte rien. Le problème des finances ralentit souvent la croissance de l'Église. Question. Pouvez-vous me dire à quoi ressemblent vos réunions lorsque vous vous assemblez librement? La réponse. Les chrétiens chinois sont pleins d'entrain et se sentent tous responsables quand nous nous réunissons en toute liberté. Nous chantons des hymnes et des chœurs et nous chantons vraiment de tout notre cœur. Pendant la prédication et le témoignage, il y a beaucoup d'amen et d'alléluia. Nous nous réunissons dans la forêt et dans les grottes pour cela. Comme ça, personne ne nous entend. Question. Cela fait plusieurs décennies que dure ce réveil. On est en 2006, hein, l'interview. Pouvez-vous me dire pourquoi il ne s'amenuise pas ou ne s'arrête pas carrément, ce réveil? La réponse. Il y a deux raisons à cela. Premièrement, l'Église s'active sans cesse à accomplir les buts de Dieu pour le réveil, pour le réveil sur la terre. Ce but de Dieu, c'est l'évangélisation. Du moment que le peuple de Dieu fait ce travail, Dieu continue à envoyer son esprit sur lui. C'est le secret de la pérennité du réveil. Et l'Église de Chine a une puissante vision de sa grande mission. Nous croyons que la responsabilité de l'Église est de prêcher l'Évangile à notre génération. La seconde raison découle de la première. À cause de notre persévérance à prêcher l'Évangile, nous sommes constamment persécutés. Cette persécution nous purifie et nous apporte encore plus d'onction. Ces deux aspects des choses entraînent une atmosphère de réveil. En tant que responsables, nous donnons toujours toute la place au Saint-Esprit pour diriger le travail. Nous lui donnons carte blanche pour qu'il agisse où il veut et quand il veut. Nous constatons que l'Église d'Amérique est beaucoup trop organisée. Question. Pouvez-vous apporter un commentaire sur l'eschatologie des églises de maison? Quelle est leur théologie au sujet de la fin des temps? Réponse. Elle est très simple. Nous croyons que Jésus va revenir. Oui, c'est toujours des réponses simples. Nous croyons que Jésus va revenir. Il vient pour son épouse qui s'est préparée. En ce qui concerne les détails de sa venue, comment cela va se passer, nous sommes parfois en désaccord. Mais ces différences de point de vue ne nous divisent pas. Le point fort de notre théologie est l'évangélisation. Nous croyons que l'évangile doit être prêché à toutes les nations, alors viendra la fin. Nous croyons que l'évangile doit être prêché à toutes les nations, alors viendra la fin. Nous nous basons sur Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est à cause de cette croyance que nous avons de fortes convictions pour l'évangélisation. Nous pensons que si nous ne témoignons pas activement autour de nous, nous empêchons la seconde venue de Christ et nous devons nous en repentir. Question. L'Église de Chine croit à une vitesse impressionnante. Elle est toujours cachée. Il doit être difficile de donner une formation à vos responsables. Oui, l'Américain qui vient, Chine. Il doit être difficile de donner une formation à vos responsables. Dans notre monde occidental, beaucoup de personnes peuvent penser que vous ne pouvez pas diriger une église si vous n'avez pas reçu une formation au préalable. Apparemment, il n'existe pas de formation en Chine. Et pourtant, l'église est puissante. Comment cela se fait-il? Pouvez-vous nous dire quelle préparation reçoivent vos responsables? Question occidentale. Sans formation, on ne peut rien faire. Oui. Réponse. Voilà la réponse. Écoutez bien la réponse. La plupart des grands responsables sont très pauvres. Leur principal trait de caractère, c'est l'amour. Ils se donnent sans compter dans leur travail pour les brebis persécutées de Chine et se soumettent volontairement à l'éventuel danger d'emprisonnement. Un seul geste de travers, et c'est la prison pour 5 ou 10 ans. Cet amour qui les caractérise, plusieurs à l'ouest ne l'ont jamais connu. Oui, nous formons nos responsables. Leur formation, cependant, est très simple. Nous les formons dans 3 domaines distincts. Ça m'a fait rire, si je veux dire, un peu. Nous les formons dans 3 domaines distincts. Je vais essayer de les résumer rapidement. Nous leur apprenons comment échapper à la police. Comment échapper à la police lorsqu'ils sont interpellés. Et comment échapper à l'emprisonnement lorsque Dieu leur dit « Cours !» La parole de Dieu est très importante pour ces responsables. Ils ont mémorisé et intériorisé plusieurs chapitres de la Bible. Ils ont appris par cœur des chapitres de la Bible. Ils ne peuvent pas avoir la Bible dans leurs mains, mais ils peuvent en transporter une dans leur cœur. Le feu du Saint-Esprit est également très important dans leur ministère. Ces hommes sont constamment fortifiés par l'Esprit. C'est pourquoi l'Église de Chine s'est mise à croître si rapidement. Voilà l'interview que je voulais échanger avec vous. Il est très édifiant. Ça le montre quand on prie pour ces églises qui persécutent le Seigneur, délivre-les. On se demande maintenant si je vais prier, si je vais adresser cette prière. Et oui, prie pour nous, mais dans l'autre sens. Délivre-les de la séduction. Et nous, en train de dire, délivre-les. Et Dieu utilise la persécution, comme ils le disent, pour les faire vivre dans un réveil qui dure. En 2006, au début du XXe siècle, 80 millions de disciples de Jésus construisent l'église de Chine. Voilà le témoignage, cet échange que je voulais échanger avec vous, qui clôture notre échange de ce matin, et que Dieu parle au cœur, et qu'il nous transforme, et qu'il nous métamorphose ensemble pour préparer son église pour son Fils, Jésus-Christ. Amen.